Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir. C'était il y a 10 ans au Pakistan. Le 2 mars 2011, Shahbaz Bhatti, grande figure de la liberté religieuse, ancien ministre catholique des minorités, était assassiné par les talibans. Fervent artisan du dialogue interreligieux, son action portait sur la défense des personnes opprimées et marginalisées. 5 ans après sa mort, le diocèse d'Islamabad a ouvert sa cause en béatification. Aujourd'hui, le frère de ce ministre catholique, Paul Bhatti, témoigne sur nos ondes. Il cherche avant tout à préserver son héritage précieux dans un pays où les persécutions se poursuivent.
Shahbaz a commencé par l'idée d'intégrer les plus pauvres, les plus faibles dans la société pour rendre leur vie plus digne, pour leur faire comprendre qu'ils avaient eux aussi leurs droits, car beaucoup de gens vivaient tellement opprimés qu'ils croyaient que c'était leur destin. Tout cela s'est manifesté au Pakistan avec divers changements et réformes. 2 exemples parmi d'autres. Avant son entrée en politique au Pakistan, il n'était pas prévu que les minorités religieuses puissent être présentes au Sénat. Il a fait en sorte, par son combat, qu'elles puissent l'être aujourd'hui. Le 2e changement important au Pakistan a été l'intégration des personnes les plus faibles, c'est-à-dire la possibilité d'accéder aux concours publics, pour lesquels les musulmans sont normalement sélectionnés, représentant la majorité. Les marginaux et les opprimés le sont restés quand il a vu la difficulté pour ces personnes de s'intégrer, précisément parce qu'elles ne pouvaient pas accéder au concours. Il a demandé de fixer un quota de 5% pour les minorités, et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes dans l'État, dans les rôles gouvernementaux, y compris des avocats et des juges.
Des propos recueillis par Francesca Sabatinelli. En Afghanistan, 3 jeunes femmes employées d'une chaîne de télévision ont été tuées aujourd'hui à Jalalabad, dans l'est du pays. Une attaque menée par des hommes armés moins de 3 mois après l'assassinat, dans les mêmes circonstances, d'une présentatrice de la chaîne Enekas TV. Les victimes, âgées de 17 à 20 ans, ont été assassinées par balles. La police indique avoir arrêté l'un des assaillants, un taliban. Les manifestations pro-démocratie ne faiblissent pas en Birmanie. Des rassemblements réprimés dans la violence. À Calais, dans le nord-ouest du pays, 20 personnes ont été blessées, dont 3 qui se trouvent dans un état critique, touchés par des tirs à balles réelles, selon un médecin. Par ailleurs, plusieurs journalistes ont été arrêtés lors d'opérations des forces de sécurité. Dimanche dernier, 18 manifestants avaient été tués. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU devraient tenir cette semaine une nouvelle réunion sur le dossier birman. Nouveau signal envoyé à Moscou après l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Il vient cette fois des États-Unis. Washington a annoncé des sanctions à l'encontre de 7 hauts responsables russes. Il s'agit des premières mesures contre la Russie annoncées par le président Joe Biden. Hier, les États membres de l'Union européenne avaient de leur côté officialisé des sanctions visant 4 hauts fonctionnaires russes et les Nations unies ont réclamé une enquête internationale sur l'empoisonnement de l'opposant russe. Direction à présent l'Éthiopie qui fête aujourd'hui les 125 ans de la bataille d'Adoua. Célébrée dans tout le pays, cette victoire militaire contre les Italiens est devenue l'acte fondateur de l'Éthiopie moderne, le jour où l'empereur Ménélik a évité la colonisation. Cette année, les célébrations ont connu un engouement particulier alors que le gouvernement est en guerre contre le Tigré, là où se trouve justement Adoua. Dans les rues d'Addis Abeba, la guerre actuelle n'a pas empêché de se souvenir de cette victoire emblématique. Le reportage de Noé Ochebaudin.
Manteau long et chapeau caractéristique sur la tête, Mikias Wandou, 17 ans, participe à une reconstitution de la bataille. Cet adolescent tient le rôle principal, celui de l'empereur Ménélik, héros éthiopien face aux Italiens.
Les Éthiopiens ont réussi à préserver notre liberté, car nous étions unis et nous avons combattu tous ensemble contre les Italiens. Adoua a vraiment une place très spéciale dans notre mémoire.
Adoua, une victoire contre l'impérialisme italien donc, mais aussi contre tous ceux qui menacent l'unité éthiopienne, assure Fethene Mebra Biranou. Comprenez le parti tigrien du TPLF.
Aujourd'hui, 2 factions politiques se battent et le TPLF doit être vaincu. Même si nous n'étions pas favorables à une guerre, ce qui devait arriver arriva. On se bat précisément contre ceux qui nous empêchaient de fêter Adoua par le passé.
Célébré à Doha, un dilemme pour Enoch, comment se réjouir d'une bataille passée alors qu'une autre est actuellement en cours dans la même ville.
Ceux qui meurent en ce moment sont nos concitoyens. Dès qu'il y a une guerre, il y a malheureusement des pertes humaines. Cette guerre a différentes conséquences comme la destruction d'infrastructures, des réserves d'eau, des routes, de l'électricité.
D'après les témoignages en provenance du Tigré, c'est une autre puissance étrangère qui a occupé à Doha récemment, en l'occurrence l'armée érythréenne. Addis Abeba, Noé Ochebodin, Radio Vatican.
Toujours concernant l'Éthiopie, l'organe de défense des droits de l'homme dans le pays s'est dit préoccupé ce mardi par les récentes arrestations de journalistes et traducteurs dans la région du Tigré. Le HRC, organisme indépendant mais affilié au gouvernement, appelle à leur libération. Le pape François se rend en Irak pour apporter du réconfort à un peuple qui a beaucoup souffert ces dernières années. Dans un entretien qu'il vient de nous accorder, le cardinal, secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin, évoque l'importance de ce voyage en insistant sur l'urgence d'une collaboration pour reconstruire le pays et panser toutes les blessures. Son témoignage est à retrouver à l'adresse vaticannews.va. Jean-Paul II l'avait tant souhaité, François est sur le point de réaliser le premier voyage d'un pape sur la terre d'Abraham et de Jonas. Le Saint-Père, du 5 au 8 mars, rencontrera à Bagdad, dans la plaine d'Our, à Erbil, ainsi qu'à Mossoul et Karakoch, les différentes communautés qui composent l'Irak, pays exsangue, ayant subi ces dernières années la guerre et la présence des djihadistes de l'État islamique. Tout au long de ce pèlerinage, le pape ira clamer « Vous êtes tous frères », le thème de ce déplacement placé sous le signe de la fraternité humaine. Le frère Olivier Poquillon, dominicain à Erbil, au Kurdistan irakien, décrit l'importance de ce voyage pour l'ensemble de la population irakienne en quête de paix.
La visite du pape François dans la plaine de Ninive est un événement majeur. Vous savez, en Orient, quand on veut honorer quelqu'un, on ne l'invite pas chez soi, on lui rend visite. Et le pape, donc le chef de l'Église catholique, se rend auprès d'un parent souffrant. Cette visite à Mossoul même sera une visite de compassion, une visite de prière aussi, pas de discours politique, mais de prière pour les victimes. Dans un cadre où aujourd'hui, chrétiens et musulmans essayent de travailler ensemble à la construction de trois édifices majeurs de la vieille ville, la grande mosquée, la cathédrale Al-Tahira et le couvent des dominicains Al-Sahr. Décréter l'union entre les religions, c'est une chose, mais la vivre, c'est autre chose. Et je pense que ce que va faire le pape, c'est se rendre au contact de ces hommes et de ces femmes qui sont engagés ensemble au quotidien pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Le dialogue interreligieux, il peut être au niveau théologique, il peut être au niveau politique, mais il est d'abord au niveau de la fraternité humaine.
Le pape va visiter un pays fracturé où il y a une perte de confiance, de capacité de dialogue. Cette présence du Saint-Père peut-elle créer des ponts entre les différentes communautés ?
Ce voyage du pape est le premier dans la région qui ait jamais eu lieu, mais il se situe à la suite du voyage à Abu Dhabi avec cette déclaration sur la fraternité humaine, déclaration commune avec le grand imam d'Al-Azhar, le voyage en Égypte, le voyage au Maroc aussi avec le roi du Maroc, avec cette thématique de passer du statut de minorité à la pleine citoyenneté. Avant de reconstruire des villes comme Mossoul, Kirkouk ou autres qui ont été impactées parfois violemment par les combats des dernières décennies, il faut rebâtir la confiance. Et le pape nous lance deux appels, un appel à la confiance pour les chrétiens et un appel à s'engager dans le dialogue avec nos voisins, avec nos frères, donc qui vivent au quotidien avec nous. Oui, il reste des traces, évidemment, la confiance ça se décrète pas. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est d'essayer de multiplier les occasions d'activités communes, de vie commune, que ce soit à travers les activités universitaires ou à travers des choses tout à fait terre-à-terre comme le déblaiement, le déminage, la reconstruction.
Les chrétiens en Irak représentent aujourd'hui entre 300 et 400 000 personnes. Ils étaient près de 1,4 million en 2003. Cette visite du pape sur leur terre ancestrale peut-elle éviter les nouveaux départs et encourager les retours ?
Je pense que c'est un faux débat aujourd'hui. Ce qui me semble important, ça n'est pas de savoir si les chrétiens veulent partir ou rester. Ils sont comme tous les Irakiens. S'ils ont des perspectives économiques et des perspectives de jouer un rôle dans la société, ils resteront. Et s'ils n'en trouvent pas, eh bien, ils chercheront à émigrer. En revanche, je pense que ce voyage est vraiment l'occasion de voir ce dans quoi les chrétiens s'engagent.
Le frère Olivier Poquillon, dominicain à Erbil, était notre invité. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Très belle soirée. Au revoir.